proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Joseph Voignac qui nous parle de Juive et Républicaine, l'école Maïmonide qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope. Bonsoir Joseph.
Bonsoir et merci de me recevoir.
Avec grand plaisir, parce que c'est vraiment un livre que j'attendais hein, sur l'histoire de la célèbre école Maïmonide créée dans l'entre-deux-guerres par Marcus Cohn. On en a déjà parlé, on a eu l'occasion de discuter de vos recherches et puis donc voilà la parution qui arrive et j'en suis absolument ravie parce qu'elle paraît aux éditions de l'Antilope et que même si il y a eu des livres historiques qui ont paru, je n'attendais pas votre maison d'édition parce que Gilles Rosier, vous êtes avec nous sur ce thème-là. Pourquoi ce choix?
Bonjour Sandrine.
Bonjour, d'avoir accepté de publier ce court essai historique sur une école juive.
C'est vrai qu'il n'est pas fréquent qu'on publie des essais, c'est le deuxième seulement qui soit vraiment un essai. Le premier c'était Freud à Jérusalem, d'un psychanalyste et historien israélien. Mais on ne s'interdit pas non plus. En revanche, il faut que ce soit un essai qui soit un peu écrit comme un roman, c'est-à-dire qui se lise comme un roman. Voilà.
Et c'est pour ça que c'est de grande qualité. Alors je peux témoigner, hein, c'est pas pompeux parfois comme des thèses universitaires. Et puis on lit, on suit hein, l'évolution de cette école avec grand plaisir. Alors quelques mots hein, pour vous présenter Joseph Voignac. Vous êtes titulaire d'un master en histoire européenne de l'Université de Cambridge. Vous êtes l'auteur de plusieurs articles sur l'éducation juive et le sionisme en France, et vous êtes un ancien élève de l'école Maïmonide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous donnez comme information déjà dans la préface? Pourquoi avoir décidé de travailler sur cette école?
Oui, alors c'est une histoire qui est un peu longue et faite de hasard, parce que le sujet s'est un peu imposé à moi. Après ma scolarité à l'école Maïmonide, j'ai fait des études d'histoire en Angleterre et dans le cadre de ces études, j'étais amené à travailler en archives où je lisais les principaux titres de la presse juive d'entre-deux-guerres.
C'était quoi votre sujet de recherche?
Donc, c'était le sionisme en France dans les années 30. Donc, c'était essayer de comprendre quel était l'état d'esprit de la communauté juive autochtone sur le sionisme. Et donc je regardais vraiment attentivement les débats qui pouvaient être présentés, enfin les opinions qui pouvaient être présentées dans la presse juive. Et donc je regardais vraiment ce thème-là dans les archives. Et un jour, je tombe par hasard sur un article de 1935 qui annonce l'ouverture prochaine d'une école du premier lycée juif en France, l'école Maïmonide. Et là, je me rends compte qu'en fait, l'école en question est l'école que j'ai moi-même fréquentée et j'avais aucune idée avant de tomber sur cet archive que cette école était aussi ancienne. Et voilà, ça c'est le premier élément qui m'a interpellé. Et bon, par la suite, il y a eu plusieurs autres articles qui étaient publiés sur le déroulement de la vie scolaire dans les années 30. Bon, plein de choses qui permettaient de se rendre compte de ce qu'était cette école dans les années 30. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le public de cette école était assez différent et les enjeux étaient différents de celui que j'avais connu à l'école. Et c'est ça qui m'a un peu donné l'envie de creuser davantage ce sujet et de voir si des historiens s'étaient intéressés à la question. Je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas et que voilà, il y avait tout un chantier à faire pour essayer de retracer l'histoire de cet établissement qui avait traversé toute l'histoire du XXe siècle et du début du XXIe siècle.
Et ce qui est important est dans le titre, juive et républicaine. Oui. Et on va en dire un mot. Alors pourquoi cette étude, elle est attendue? Alors pour les lecteurs hein, des éditions de l'Antilope, mais aussi pour les historiens, parce qu'elle retrace l'histoire d'un établissement scolaire qui a accompagné les soubresauts du XXe siècle, parce que cette institution a inauguré de manière exemplaire un style qui fera florès après la libération, le dialogue entre le particularisme juif et la culture universelle, parce qu'elle a vu défiler comme enseignant ou comme élève des personnalités du monde intellectuel juif, et parce que cette école, juive et républicaine, reste un modèle à suivre au XXIe siècle. En tout cas, c'est mon avis. Est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions de création de cette école par Marcus Cohn dans les années 30?
Oui, alors c'est ça, c'est que ce qui est important historiquement avec cet établissement, c'est que c'est un établissement pionnier, puisque c'est le premier établissement secondaire juif en France, et ce n'est pas anodin, parce que, voilà, selon moi, et c'est ce que je décris dans le livre, ça représente vraiment un changement de paradigme au sein de la communauté juive organisée et des dirigeants institutionnels qui passent d'une volonté de tout faire pour assurer une intégration parfaite de la communauté juive en France, et en particulier de ces éléments nouveaux qui rentrent dans le giron national, Donc s'assurer à ce qu'ils voilà, ils pratiquent un judaïsme qui soit en conformité avec les mœurs françaises, à un autre paradigme qui est une volonté de s'assurer à ce que les juifs les plus intégrés ne s'éloignent pas définitivement du judaïsme, donc de refamiliariser la communauté juive intégrée au judaïsme. Et donc voilà, c'est un peu l'institutionnalisation de ce changement de paradigme.
Voilà, d'une séparation en fait. Il y avait les enfants des écoles juives traditionnalistes qui n'avaient pas accès à la grande culture, et de l'autre côté les enfants des israélites qui étaient complètement, peut-être trop intégrés dans les écoles privées ou publiques, en tout cas de la République, et qui n'avaient pas accès à ce savoir juif. Et cette école est une sorte de réconciliation entre les deux.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est surtout un vrai changement de public. C'est-à-dire que les écoles juives qui existaient depuis le début du 19e siècle et jusque dans les années 30 avaient vraiment vocation à accélérer l'intégration d'enfants récemment immigrés en France ou dont les parents étaient récemment installés en France. Alors que là, c'est vraiment de s'adresser à une certaine élite sociale. Et j'ai trouvé des archives qui montrent qu'il y a eu vraiment une considération un peu presque de classe sociale par rapport au public qui était recherché pour cette école. Puisque là, l'idée était vraiment de familiariser des enfants qui se destinaient à toutes sortes de carrières au judaïsme, et de proposer un enseignement de qualité pour que justement ces familles-là soient amenées à scolariser leurs enfants dans un établissement juif sans renoncer à des carrières dans toutes sortes de métiers, et une éducation qui soit aussi bonne que ce qu'ils auraient pu trouver dans les lycées publics.
Alors vous expliquez comment les débuts finalement sont assez difficiles, hein. L'audace de la thématique de l'école, eh bien, elle explique, et que finalement du côté des institutions juives et du côté aussi des familles, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, c'est ça, c'est qu'à l'origine, donc, les fondateurs voulaient vraiment s'adresser à une certaine bourgeoisie juive française, et cette bourgeoisie a donné son assentiment, son soutien au projet, théoriquement. Donc voilà, dans la presse juive, il y a eu des articles très favorables au projet, des membres de l'élite financière, communautaire, donc les Rothschild, les Wildenstein, les Weisweiler, qui ont sponsorisé la création de l'école, mais ils ne voulaient pas en confier l'éducation de leurs propres enfants. Et donc Marcus Cohn a dû aller démarcher des enfants dans les quartiers de l'Est parisien. Donc il s'est rendu dans le 4e arrondissement, dans le 3e, dans le 11e, et a fait un peu du porte-à-porte auprès de familles juives récemment immigrées, pour la plupart, en essayant de les convaincre de rejoindre son établissement. Et pour ces familles-là, ça représentait une certaine ascension sociale, puisqu'ils intégraient un lycée alors qu'ils ne se seraient pas forcément orientés vers des études supérieures et le deuxième cycle des études. Et là, ils rentraient dans l'établissement de Marcus Cohn, qui en plus était un fin pédagogue.
Et, alors justement, Est-ce qu'on peut dire un mot de Marcus Cohn, parce que c'est une personnalité à la fois atypique, une sorte de savant, aussi bien en savoir sacré que profane. Vous pouvez nous expliquer qui il était ?
Oui, alors il est né à Strasbourg d'une famille allemande, et lui-même a fait des études de linguiste, donc il s'est spécialisé dans les langues orientales, et il se destinait plutôt à une carrière dans le monde académique, mais il avait aussi une fibre pédagogique et avait à cœur de vraiment transmettre le judaïsme aux générations futures. Et donc c'est ce qui a présidé au fait qu'il soit enseignant dans l'école rabbinique de la rue Vauquelin. Et de là, il s'est rendu compte qu'il était dommage de s'adresser que à des apprentis rabbins, et qu'il voulait étendre un petit peu son spectre, et s'adresser à l'ensemble des enfants juifs, quelle que soit la carrière vers laquelle ils s'orientaient. Et donc c'est ça qui a présidé à la création de l'école Maïmonide, dans laquelle il a voulu aussi un petit peu innover avec ses méthodes pédagogiques, puisque les cours étaient enseignés de manière assez informelle, avec des petits effectifs.
Et des profs piochés un petit peu partout, même à l'école normale supérieure à côté,
c'est
ou
ça,
des choses comme
dans
ça.
Dans les deux premières années de son existence, l'école était située rue Claude Bernard, dans le 5e arrondissement, et donc il a fait appel aux personnalités qui fréquentaient la synagogue de la rue Vauquelin, mais aussi les étudiants qui étaient dans les institutions voisines. Et Oui,
Et puis il finira aussi par faire son allié, hein, c'est bien ça.
Oui.
Et prendra sa place Théo Dreyfus, une grande figure aussi du monde intellectuel qui a été l'élève de André Néer et d'Eliane Amado-Lévy-Valency en Israël. Donc une école dirigée par des personnalités prestigieuses. Gilles, je vous pose une petite question comme ça. On entend comme ça parler Joseph de manière très précise et très historique. Et quand on lit le livre, comme vous le disiez, ça se lit comme une histoire romanesque. C'est ça qui vous a plu dans ce contenu ?
Oui, ce qui nous a beaucoup plu à Anne-Sophie Dreyfus et moi-même, c'est que ça raconte l'histoire d'une école, mais ça raconte aussi l'histoire de, alors j'allais dire des Juifs de France, pas forcément tous les Juifs de France, les Juifs qui étaient susceptibles d'envoyer leurs enfants dans une école juive, mais surtout, en fait, l'école a un dialogue permanent avec ce qui se passe pour la République française et pour la population juive. Et Dieu sait s'il s'est passé des choses depuis 1935 en France et en Europe en général.
Oui, donc une école qui colle à l'histoire du judaïsme français, hein, peut-être pas des Juifs, mais du judaïsme, encore que. Hein. Et puis la guerre, très vite, malheureusement, l'école ferme. Et c'est absolument étonnant ce que fait Marcus Cohn en captivité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, c'est qu'il a été mobilisé dès septembre 1939. Il est... parti défendre la ligne Maginot et s'est fait évidemment capturer assez rapidement après l'invasion allemande et s'est retrouvé en captivité dans un oflag allemand. Et là, immédiatement, il a été regroupé avec d'autres détenus juifs et il a voulu tout de suite continuer l'enseignement et a proposé à ses camarades de détention. Il y en avait qui connaissaient déjà, d'autres qui l'a séduit.
Et que même s'il n'avait pas les livres, il avait tout dans la tête
oui,
et qu'il pouvait réciter par cœur.
C'est qu'il a rédigé des cahiers de théologie, il a même rédigé des livres de prière, parce que ce qui est aussi incroyable, c'est qu'il a voulu non seulement qu'il y ait un enseignement, mais aussi une pratique du rituel juif dans le milieu carcéral allemand. Et voilà, donc il a vraiment suscité aussi des vocations, parce qu'il y a le juge Robert Lehmann, qui n'était pas particulièrement proche de l'étude juive ou de la pratique, et qui est après, au contact de Marcus Cohn en détention, s'est vraiment engagé dans le milieu associatif juif, puisqu'il a après dirigé l'école Maïmonide après la libération.
Alors justement, il rouvre très vite cette école qui accueille une majorité d'enfants de survivants des camps ou des enfants qui étaient dans les camps aussi.
Oui, voilà justement ce que vous disiez, par rapport au fait que l'école Maïmonide décrit un petit peu l'histoire de la communauté juive et permet vraiment de visualiser tous les bouleversements qui a comporté l'histoire des Juifs de France au XXe siècle. C'est moi aussi, en tant qu'ancien élève, j'ai été surpris de me dire que voilà, dans la même cour d'école que j'avais fréquenté, quelques décennies auparavant, il y avait dans cette même cour des rescapés de la Shoah, des enfants qui avaient vécu l'enfer des camps ou qui avaient vécu une enfance cachée à la campagne, de se dire que voilà, la communauté juive est passée par toutes ces étapes.
Est-ce que la mission change de l'école ? Est-ce qu'elle est toujours juive et républicaine ? Vous allez nous dire que oui, mais il y a eu entre-temps ce traumatisme l'échec de la modernité incarné par la Shoah.
Oui, c'est... Oui, la mission est la même. Il s'ajoute une nouvelle mission qui est de redonner confiance et espoir dans l'avenir à ces enfants traumatisés et aussi leur donner un contenu vraiment positif à une identité qui leur a attiré tant de périls et de souffrances. C'était un vrai défi pour faire en sorte que ces enfants restent attachés à leur identité juive, veuillent eux-mêmes la transmettre et l'incarner. Donc il y avait ce travail aussi psychologique. Et par rapport à la relation avec la France, ce que je dis dans le livre, c'est qu'elle n'a pas fondamentalement changé, mais alors que dans les années 30, les pionniers de l'école Maïmonide savaient qu'en créant un premier lycée juif, ils proposaient un départ du consensus de la communauté juive par rapport à l'intégration, parce qu'ils proposaient une alternative au lycée de la République, et donc ils se justifiaient beaucoup. Donc les articles que j'ai trouvés dans la presse étaient remplis de justifications, comme s'il fallait absolument montrer sa compatibilité avec les termes de l'émancipation. Et dans l'immédiate après-guerre, on ne retrouve plus ce ton de justification. Les Juifs de France ont certainement compris que les discours ne protègent pas nécessairement de la persécution et ça entraîne une liberté de ton. Et l'autre aspect qui est important, et c'est un des thèmes que je développe dans le livre, c'est le rapport au sionisme de l'établissement.
Alors, on va dire un mot, si vous le permettez, dans un instant, juste pour dire que nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle même jeu de mots, École Maïmonide, culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de l'historien Joseph Voignat, qui nous parle de juive et républicaine, l'École Maïmonide. Ces années d'après-guerre, c'est un peu mon dada aussi, puisque c'est cette fameuse renaissance de la pensée juive qui s'est incarnée dans l'École de pensée juive de Paris. Et finalement, on oublie de dire que comme précurseur, il y a eu cette école maïmonide qui, dès avant la guerre, a fait sienne les principes fondamentaux de partir des textes de la tradition juive, de leur étude, quel que soit le niveau de pratique des personnes qui s'y essayaient, en les faisant dialoguer avec la culture générale. Maïmonide, c'est ça. Et c'est important de le redire.
Oui, c'est ça, c'est vraiment de réhabiliter les disciplines juives au même rang hiérarchique que les disciplines de l'éducation nationale, de les faire communiquer. Donc il y avait des cours dans les années 30, des cours de philosophie classique pour l'obtention du baccalauréat et des cours de philosophie juive et toutes sortes de déclinaisons aussi de l'étude du judaïsme qui n'était pas que source de pratique pour le culte, mais vraiment qui pouvait se décliner en histoire juive, en philosophie juive et en littérature juive. Il y avait toutes ces différentes composantes qui étaient déclinées sous forme de cours dans le programme éducatif de l'école Maïmonide dans les années 30.
Et pour l'anecdote, un Marcus Cohn qui voulait les meilleurs professeurs possibles a engagé ce fameux génie marginal clochard qui était Monsieur Chouchani, et on a des témoignages de cours qu'il donnait à l'école Maïmonide et qui montrent aussi finalement l'ouverture de Marcus Cohn qui engage des enseignants de tous les horizons avec cette ligne directrice de la qualité de l'enseignement.
Oui, et surtout la communication entre la culture classique, disons, et la culture juive, que voilà, c'était vraiment toute cette volonté de réhabiliter ces textes et de dire qu'ils avaient une pertinence dans la modernité et qu'ils pouvaient avoir une place à la table des penseurs traditionnels. Et ça, c'était quelque chose que Marcus Cohn avait à cœur. Et effectivement, son côté de libre penseur aussi est très important pour comprendre sa personnalité et aussi la spécificité de l'école Maïmonide, qui a toujours voulu être indépendante des autres réseaux. Enfin, ça a toujours été une école assez autonome, justement, pour pouvoir se donner la liberté d'avoir un ton qui lui était propre et s'ouvrir à des personnalités qui pouvaient venir d'horizons différents.
Et à une heure où la Shoah était passée par là, malheureusement, où 76 000 juifs de France avaient été déportés, il fallait renouveler toute une génération de cadres et l'école a joué ce rôle. Et je pense à certaines personnalités que vous citez qui ont été des élèves de l'école. Je ne savais pas, Serge Klarsfeld, par exemple.
Oui, il a fait un passage bref mais marquant puisqu'il l'évoque dans ses mémoires. À l'école Maïmonide, sa mère l'a scolarisé à l'école parce que elle était désormais veuve et avait la charge de ses enfants. Et une des particularités de l'école Maïmonide dans les années d'immédiate après-guerre était qu'elle avait un internat qui permettait à des parents qui devaient s'occuper de leur charge matérielle, la survie, de confier leurs enfants à un internat qui... dans un contexte très bienveillant, parce que ça, c'était important. Il y a eu des rescapés de la Shoah qui ont été scolarisés dans des institutions qui n'avaient pas forcément l'écoute, la bienveillance, la chaleur qui leur permettait d'avoir une adolescence épanouie, alors qu'à Maïmonide, les parents qui voulaient confier leurs enfants en internat pour des raisons pratiques savaient qu'il y aurait une écoute, une compréhension de l'ensemble du personnel éducatif pour le traumatisme qu'ils avaient vécu, puisque dans ces années-là, c'est élèves et professeurs qui sont des survivants. Et ça fait un contexte scolaire très particulier.
Puis la bienveillance aussi qui est marquée par la maman de quelqu'un qu'on connaît bien, un ancien 68-art qui est resté longtemps dans cette école. Vous pouvez nous en dire un mot aussi ?
Oui, donc vous faites allusion à Hertha Cohn-Bendit,
exactement,
qui est la mère de Daniel Cohn-Bendit et qui a été pendant 10 ans l'intendante de l'internat de l'école Maïmonide. Et au-delà du rôle pratique qu'elle accomplissait au quotidien pour gérer la cantine et tout ce qu'il peut avoir lieu dans un internat, elle était surtout l'intendante spirituelle des élèves, parce qu'elle était une présence féminine, peut-être quelque part maternelle aussi, pour des enfants qui, pour beaucoup, avaient perdu des proches. Et elle s'occupait aussi d'écouter, d'être la confidente de ses élèves. Et ça a été...
Et quelle autre personnalité, alors, son passé, ou en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève dans cette école ?
Vous citiez les personnalités de l'école de pensée juive de Paris. Enfin, Emmanuel Levinas a enseigné la philosophie à l'école maïmonide parce qu'il était directeur de l'ENIO,
oui.
Mais il y avait des liens de proximité entre l'ENIO et l'école maïmonide au moment de la reconstruction de la communauté juive dans l'immédiate après-guerre, parce que les locaux étaient dans un état difficile et qu'il y avait aussi une parenté intellectuelle entre la philosophie de Levinas et ce que Marcus Cohn avait à l'esprit. Donc voilà, Levinas a été un professeur de philosophie à l'école maïmonide. Elie Wiesel a aussi fait un bref passage à l'école maïmonide, puisque Lozé l'a envoyé suivre des cours à l'école maïmonide, et il le cite aussi dans ses mémoires « Tous les fleuves vont à la mer », pour qui ça a été aussi un passage bref, mais pourtant très marquant. Donc il y avait quelque chose qui se dégageait de l'école, qui voilà, imprimait un peu les esprits et les souvenirs de ces personnalités qui pourtant ont vécu tant de choses par la suite.
Alors, un de vos sujets de prédilection, c'est le sionisme. Hein, on l'a compris tout à l'heure en introduction. Comment se vit le sionisme à l'école maïmonide, sachant que pour un grand nombre de juifs de France, finalement, le sionisme devient prégnant, pas au moment de la création de l'État d'Israël, mais après la guerre des Six Jours. C'est à partir de là où les juifs de France, et notamment les intellectuels, se déterminent pour ou contre.
Oui, alors justement, c'est un thème qui m'est cher.
Oui.
Le sionisme à l'école maïmonide est passé par différentes phases. Et en fait, ce que je montre dans le livre, c'est que dès les années 30, en fait, l'école maïmonide a une certaine influence sioniste. Donc c'est jamais explicite, c'est toujours implicite. Mais par exemple, la place du sport est très importante dans le programme de l'école maïmonide. Et là, on y voit aussi un parallèle avec le judaïsme musculaire prôné par Max Nordau.
La fameuse régénération physique qui va en même temps que la régénération intellectuelle.
Donc c'était vraiment l'idée de créer un nouvel homme juif. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très central à l'idéologie sioniste. Donc ça, c'était incarné. Et aussi, l'autre particularité, Marcus Cohn, qui était linguiste, était très attiré par la renaissance de l'hébreu moderne comme langue parlée, et l'a inclus dans le programme d'études juives dès les années 30. Donc ça, c'était quelque chose qui était extrêmement innovant. Et donc voilà, il y avait un lien avec le sionisme qui était incarné de ces deux manières, le sport, l'apprentissage de l'hébreu moderne, mais aussi quelques expériences de potager, d'agriculture, mais sans jamais parler du débouché de ces initiatives. On ne parlait pas de préparer des enfants à l'immigration en Palestine à l'époque. Et immédiatement après la guerre, dès 1948, l'école maïmonide organise un feu de camp le jour de la déclaration, enfin sûrement le samedi soir qui a suivi la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et effectivement, elle a reçu un peu des remontrances du consistoire qui trouvait qu'il était un petit peu de mauvais goût pour une institution éducative de se mêler de politique étrangère. Mais elle a tout de suite affirmé son soutien. Et ce soutien, et j'en retrace les différentes étapes, s'est progressivement approfondi à l'école maïmonide.
Alors, ce qu'il faut dire, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'hébreu à l'école, dans les études juives, il faut attendre André Néer et l'université de Strasbourg pour que l'enseignement de l'hébreu entre de manière officielle à l'université. Encore une fois, l'école maïmonide le fait très tôt. Il y a des cours d'hébreu très précoce. Alors, on ne peut pas tout dire hein, parce que le temps court très vite, mais il faut dire qu'il y a une évolution qui peut être une sorte de rupture aussi au cours des années et que finalement, c'est l'impression que j'ai eue. Hein, vous allez me dire, si je me trompe, que cette idée de juive et républicaine, eh bien, s'étiole en fonction des années. Est-ce qu'aujourd'hui, ou en tout cas depuis les années 80-90, ce fondement est toujours respecté dans cette école ?
Oui, je pense qu'elle est toujours respectée. En fait, ça devient de moins en moins explicite, mais disons qu'aujourd'hui, si on se rend à l'école Maïmonide, qui existe encore aujourd'hui, il y a le drapeau français, le drapeau européen sur le fronton de l'école. L'école applique strictement les règles du programme de l'éducation nationale, participe aussi à certaines cérémonies d'entretien de la flamme du soldat inconnu, à l'Arc de Triomphe, enfin, a vraiment à cœur d'être pleinement partie prenante de l'identité républicaine et même de prendre certaines initiatives sens.
Une école d'élite, c'est toujours une école d'élite comme elle a pu l'être avant-guerre ou dans les années d'après-guerre?
Je pense que c'est moins explicite dans le public visé. Je pense qu'il n'y a plus cette considération sociale qu'il y avait à l'époque. Mais oui, je pense qu'elle a à cœur d'avoir un très bon niveau académique. Et je pense que c'est ce qui en fait aussi sa popularité récente, parce que voilà, ces 20 dernières années, les demandes d'inscription ont spectaculairement augmenté. Il y a un vrai attrait pour cette école qui s'explique d'autres manières. Mais oui. Justement,
est-ce que ce n'est pas un attrait aussi pour l'école juive en général, face aux attaques que peuvent subir de l'extérieur les Juifs de France?
Oui, justement, mais en fait, il y a aussi cette dimension d'excellence académique qui fait qu'on y retrouve aujourd'hui... en partie un public qui ne se serait pas naturellement orienté vers l'école juive, mais qui a un certain soupçon du niveau de l'école publique locale où leurs enfants seraient peut-être amenés à être scolarisés, et ils ont une préférence pour l'école maïmonide qui se fait un peu de l'ordre du niveau, de l'encadrement qu'ils pourraient avoir à l'école maïmonide, et donc on retrouve un public qui ne se serait pas naturellement orienté vers l'école juive, et qui le fait même parfois un petit peu à regret de ne pas être dans le système public. Donc je pense que oui, la qualité académique de l'école Maïmonide a un impact sur le public qu'elle arrive à attirer.
Et probablement, les générations d'enfants qui ont été scolarisés dans cette école ne connaissent pas son histoire. Ils ont un moyen, grâce à votre livre, de savoir un peu plus sur les conditions de création de leur établissement. Il y a une question classique, mais non moins difficile, pour conclure cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire cet ouvrage, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Ben, je pense que c'est un voyage à travers l'histoire de la communauté juive. On y voit de manière incarnée les différentes étapes de cette histoire et toutes les influences de ce judaïsme qui est si riche et si complexe, et de vraiment pouvoir le visualiser, de pénétrer un peu derrière les clôtures de l'école Maïmonide, qui est quand même une institution que de nombreuses personnes connaissent, et de vraiment rentrer derrière les murs qui sont parfois une barrière, et de retracer le fil du temps.
Donc encore une fois, une très bonne idée des éditions de l'Antilope, d'avoir accepté de publier votre étude « Juive et républicaine, l'école Maïmonide », un essai qui vient de paraître donc aux éditions de l'Antilope et qu'on ne peut que recommander aux auditrices et aux auditeurs de la Fréquence Juive. Bonsoir,
merci
à très
beaucoup.
Bientôt.